de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Ce soir, vous êtes avec moi, Audrey. Je suis très heureux de vous retrouver à l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour l'édition de vendredi, le 28 février 2020. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes et bientôt nous allons commencer avec le journal d'aujourd'hui, le commentaire et d'autres infos. Entre autres, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur, des chansons indonésiennes et magazine musical. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 et 4750 kHz. Et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, vous écoutez maintenant la voix de l'Indonésie avec le journal d'aujourd'hui. Vous êtes avec moi Audrey, je vais vous présenter quelques événements importants entre autres. L'OMS optimiste, le virus corona peut être contrôlé. Report de deux tournois européens de badminton concernant le virus corona. Mati rappelé par le roi de Malaisie. Le port de Dubaï explore le développement de nouveaux ports au Moluques. Il y a des réductions sur les billets d'avion. L'Office du tourisme invite les touristes à profiter du charme des îles de Riau. L'OUT invite la Papouasie à réduire ses investissements dans l'huile de palme. Et la compagnie chimique française Lubrizol a été inculpée après un incendie dans son usine de Rouen. Chers auditeurs, voici les nouvelles incomplètes. L'OMS optimiste, le virus corona peut être contrôlé. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré son optimisme quant à la possibilité de contrôler le COVID-19 après la disparition de nouveaux cas d'infection par le virus corona dans un certain nombre de pays. Dans une déclaration sur le site officiel de l'OMS citée jeudi 27 février, Tedros a déclaré que 14 pays qui avaient précédemment signalé des cas positifs de COVID-19 n'avaient signalé aucun nouveau cas depuis plus d'une semaine. En outre, selon Tedros, 9 pays qui ont signalé des cas positifs de COVID-19 n'avaient pas signalé de nouveaux cas après plus de 2 semaines. Les 9 pays sont la Belgique, le Cambodge, la Finlande, l'Inde, le Népal, les Philippines, la Russie, le Sri Lanka et la Suède. Report de deux tournois européens de badminton concernant le virus corona. Deux tournois européens de badminton qui auront lieu en mars, l'Open allemand 2020 et l'Open polonais 2020, ont été décidés d'être reportés en raison de l'épidémie du virus corona. La décision a été prise jeudi par l'Agence européenne de badminton via le site officiel de la BWF. L'Open d'Allemagne, qui doit avoir lieu du 3 au 8 mars, a dû être reporté après que les autorités de la ville de Mülheim an der Ruhr ont publié des procédures en prévision de la propagation de COVID-19. La Fédération mondiale de badminton, BWF, et l'Association allemande de badminton, GBA, ont accepté la décision avec des motifs raisonnables de maintenir la sécurité des joueurs, des officiels et des supporters qui sont une priorité. Mahathir appelé par le roi de Malaisie. Le roi malaisien a convoqué Mahathir Mohamed jeudi 27 février en raison des troubles politiques provoqués par sa démission comme premier ministre au milieu d'une lutte pour le pouvoir. Le roi doit décider qui gouverne le prochain pays ou si de nouvelles élections doivent avoir lieu. Mahathir a accepté d'agir en tant que premier ministre par intérim après avoir démissionné plus tôt cette semaine au milieu des manœuvres politiques entre sa coalition et l'opposition. Mercredi 26 février, il a proposé un gouvernement intégré sans la loyauté des partis politiques. Le port de Dubé explore le développement de nouveaux ports aux Moluques. Le président directeur de PT Pelabuhan Indonesia 4, Farid Padang, a déclaré que le port de Dubé souhaitait collaborer avec Pelabuhan Indonesia 4 SA pour développer le nouveau port d'Ambon avec le projet de conseil de l'industrie portuaire intégrée à Tulehu et Wai au Moluques Centre. Farid Padang a déclaré jeudi à Makassar que le conseil de l'industrie portuaire intégrée avait été discuté la semaine dernière avec le ministère des entreprises d'État, avec le sous-ministre des entreprises d'État et la partie du port de Dubé. Il a dit qu'il était optimiste que le port de Dubé réaliserait le développement du port d'Ambon avec Pelindo 4. Selon lui, outre le port de Wai Tulehu, le port de Dubé est également intéressé à travailler avec Pelindo 4 pour développer le port de Yosudarso à Ambon. Il y a des réductions sur les billets d'avion. L'Office du tourisme invite le touriste à profiter du charme des îles de Riau. L'Office du tourisme de la province des îles Riau invite les touristes nationaux à profiter du charme des attractions touristiques dans cette région. Le chef de l'Office du tourisme des îles de Riau, Bura Limar, a déclaré jeudi à Tanjung Pinang que le coût du transport par avion vers les îles de Riau avait considérablement baissé. La réduction sur le prix du billet d'avion pour l'aéroport Annadim de Batam et l'aéroport Raja Haji Fisabilah dans la ville de Tanjung Pinang est 50%. Cette politique est valable 3 mois. Bura Limar a déclaré que Batam et Tanjung Pinang étaient inclus dans les 10 régions qui ont reçu des subventions pour les prix des billets d'avion du gouvernement. Bali, Malang, Yogyakarta, Labuan Bajo et Lombok, Manado, Silangit et Tanjung Pandan sont 8 autres destinations touristiques qui bénéficient des prix de billets d'avion subventionnés. L'UUT invite la Papouasie à réduire ses investissements dans l'huile de palme. Le ministre de coordination des affaires maritimes et des investissements, Luhut Binsar Panjaitan, a invité le gouvernement, le peuple de Papouasie et de Papouasie-Occidentale à réduire les investissements dans les plantations de palmiers à l'huile. Luhut Binsar Panjaitan a déclaré jeudi à Soron que les investissements dans l'huile de palme n'appartiennent qu'à des gros investisseurs étrangers et ne bénéficieraient pas nécessairement aux communautés locales. Il a déclaré qu'actuellement, le gouvernement avait imposé un moratoire pour arrêter l'exploitation forestière. Il a dit qu'en Papouasie et en Papouasie occidentale, il y avait divers produits agricoles tels que la muscade, le cacao, le café et les algues qui pourraient être développés par la communauté pour la croissance économique. La compagnie chimique française Lubrizol a été inculpée après un incendie dans son usine de Rouen. la société chimique française Lubrizol a été inculpée de dommages environnementaux en raison d'un incendie dans la zone de stockage de l'usine chimique de Lubrizol survenue le 26 septembre dernier à Rouen, dans l'ouest de la France, qui a provoqué 70 km de fumée noire. C'est ce qu'a rapporté RFI dans son site internet jeudi 27 février 2020. Selon le rapport de RFI, la société Lubrizol est mise en examen pour deux raisons principales. D'abord, en raison du déversement de substances dangereuses dans les eaux souterraines et le niveau de la mer. Deuxièmement, en raison de l'échec de la supervision et du fonctionnement de l'usine, de sorte qu'elle a un impact sérieux sur la santé et la sécurité environnementale, en particulier la faune et la flore, le sol, la qualité de l'eau et de l'air. Au cours du processus d'enquête, les agents ont souligné les manques de dispositifs de détection d'incendie dans les zones de stockage extérieur, les systèmes d'élimination des déchets et les dimensions des recherches d'eau. Concernant les recherches d'eau, les autorités environnementales ont demandé aux entreprises d'augmenter les réserves d'eau pour éviter de tels incidents. Les enquêtes menées à ce jour n'ont pas permis de déterminer la cause exacte des incendies qui ont détruit plus de 5200 tonnes de produits chimiques et causé de graves préoccupations pour l'environnement et les résidents locaux. Chers auditeurs, c'est tout le journal d'aujourd'hui.
Chers auditeurs, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et pour le titre, l'impact de COVID-19, l'Arabie Saoudite arrête temporairement le pèlerinage de l'Omra. Pour empêcher la propagation du nouveau virus corona ou COVID-19, le gouvernement de l'Arabie Saoudite arrête temporairement l'arrivée de pèlerinage de l'Omra de divers pays, y compris l'Indonésie. Le ministère saoudien des Affaires étrangères a ordonné qu'à ce moment, l'afflux de pèlerins en Arabie Saoudite pour effectuer le pèlerinage de l'Omra et visiter la mosquée du prophète à Médine soit reporté. Bien sûr, la politique adoptée par le gouvernement de l'Arabie Saoudite doit être appréciée pour empêcher la propagation du virus corona aux Saoudiens et aux autres pèlerins. Mais en tant que plus grand adepte de l'islam dans divers pays du monde, cela surprend des centaines de millions de pèlerins potentiels qui souhaitent effectuer le pèlerinage. Mais en effet, la Mecque et Médine sont deux lieux saints pour les musulmans où un grand nombre de citoyens du monde se réunissent pour être très vulnérables à la propagation du virus corona. Si cela n'est pas bien anticipé, la propagation du virus corona aura un effet dévastateur sur les citoyens du monde. Cette étape du gouvernement saoudien doit être soutenue par les pays musulmans en particulier avec le soutien du personnel médical et de l'assistance technique nécessaire afin que des mesures d'anticipation efficaces puissent être immédiatement trouvées et appliquées. Ainsi, les musulmans n'ont pas besoin d'attendre trop longtemps pour pouvoir effectuer l'Omra. Le gouvernement de l'Arabie saoudite n'a pas communiqué la durée de la suspension. Bien sûr, tous les musulmans du monde qui veulent effectuer l'Omra et le Hajj espèrent et prient pour y mettre fin bientôt. Enfin, ils peuvent accomplir le pic du Hajj en tant que cinquième pilier de l'islam en Terre Sainte, la Mecque, au milieu de cette année, Inch'Allah. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Bonsoir à tous, voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 28 février. Le 28 février 1922, l'Égypte a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne. L'Égypte est un pays qui a une ancienne civilisation vieille de plus de 8000 ans. Du 16e siècle au début du 20e siècle, l'Égypte a été gouvernée par des puissances étrangères allant de l'Empire ottoman, la France, à l'Empire britannique. Le 28 février 1922, l'Égypte accède à l'indépendance, mais reste sous protectorat britannique. En 1953, le système de gouvernement égyptien a été changé du royaume en république. Le 28 février 1972, le communiqué Shanghai. Le gouvernement chinois et américain ont publié le communiqué Shanghai lors de la visite du président américain Richard Nixon en Chine le 28 février 1972. Le communiqué était un document politique important pour les relations entre les deux pays qui avaient soutenu les principes fondamentaux des relations entre les deux pays, y compris le principe d'une seule Chine, respect mutuel, égalité et bénéfices mutuels, coexistence pacifique et ingérence mutuelle dans les affaires intérieures. Ces principes ont été confirmés dans l'engagement d'ouverture des relations diplomatiques sino-américaines et dans le communiqué du 17 août. Le 28 février 1991, Kusbini est décédé. Kusbini, décédé à Yogyakarta le 28 février 1991, est une figure légendaire de la musique indonésienne de Kroncong dans la période 1930-1955 avec Annie Landau, Gesang, S. Abdullah, Miss Rukia. À l'époque de Kroncong Abadi, il était un chanteur et compositeur indonésien. En 1945-1952, il compose des chansons de lutte avec ses Simanjuntak, Ismail Marzuki et El Manik. Sa chanson Bagimu Negeri est une chanson obligatoire qu'il a composée en 1942 et a été désignée chanson nationale en 1960. Il était également une figure fondatrice de la SMINDO de 1954, soit École de musique indonésienne de Yogyakarta, appartient au gouvernement indonésien qui devint plus tard l'Académie indonésienne d'art musical, AMI, et l'Institut indonésien des arts, ici, Yogyakarta. Son nom est désormais inscrit à l'aéroport international Raden Kusbini à Pandeglang, Banten. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Membuatnya menjadi cerah. dan kaulah samudra, tempat hatiku bermuara. Kau jawaban dari doaku yang akhiri penantianku, bagai bintang jatuh, kau hadirkan harapan di dalam hati. Kaulah deburan ombak yang pecahkan batu karangku, kaulah gugusan bintang yang hiasi malam gelap. Kala hati ini gundah, kau membuatnya menjadi cerah. Kau lah matahariku dan kaulah samudra, tempat hatiku bermuara. Tempat hatiku bermuara.
Chers auditeurs, c'était la chanson intitulée Moira, Estuaire, chantée par Adera. Je souhaite que vous aimez bien la chanson et restez toujours avec nous, la voix de l'Indonésie. D'Indonésie au monde. Et voici donc le temps pour mon Indonésie. Intitulé « Le gouvernement lance un certain nombre de stratégies pour surmonter l'impact du virus corona ». Bonne écoute.
Chers auditeurs, voici mon Indonésie et pour le titre « Le gouvernement lance un certain nombre de stratégies pour surmonter l'impact du virus corona ». Le gouvernement reconnaît que l'impact du virus corona ou COVID-19 frappera l'économie indonésienne. Par conséquent, le président Joko Widodo a alloué un budget de 10,3 billion rupiah pour réaliser un paquet de politiques visant à minimiser le ralentissement de la croissance économique, surtout en ce qui concerne l'anticipation liée à l'industrie du tourisme et au déclin des touristes dû à Corona, est également liée à la façon de créer un stimulus pour que le pouvoir d'achat des gens puisse survivre. Le gouvernement fournira de l'argent supplémentaire aux familles bénéficiaires de 30% à 200 000 rupiah. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Coordination de l'Économie, Erlangga Hartarto, après une réunion limitée sur l'impact de COVID-19 sur l'économie indonésienne dans le complexe du palais présidentiel Jakarta mardi. L'augmentation est valable 6 mois et sera débutée en mars 2020. En outre, le gouvernement a également augmenté le quota de logements subventionnés de 175 000 unités à 330 000 unités. La ministre des Finances, Sri Mulyani Indrawati, a expliqué que les maisons subventionnées sont au centre des préoccupations du gouvernement afin que les consommateurs puissent absorber le stock de maisons construites. Avec cette subvention, le gouvernement espère dépenser l'ancien stock et en faire de nouveau. Pendant ce temps, en ce qui concerne le secteur du tourisme, le gouvernement prépare des incitations pour les vols à l'étranger, subventionnant les billets d'avions nationaux, ainsi que des exemptions de taxes sur les hôtels et restaurants. Il espère que cela stimulera les zones touristiques et les activités économiques communautaires. En outre, les subventions aux vols intérieurs seront accordées sous la forme d'une réduction de 30% sur le billet. Cela s'appliquera à 10 destinations touristiques valables de mars 2020 à mai 2020. Ces destinations touristiques sont le lac Toba au nord de Sumatra, Yogyakarta, Malang à l'est de Java, Manado au nord de Sulawesi, Bali, Mandalika à l'ouest de Nusa Tenggara, Labuan Bajo à l'est de Nusa Tenggara, Bangka Belitung, Batam et Bintan aux îles de Riau. des exonérations de taxes sur les hôtels et restaurants dans les destinations touristiques s'appliqueront également. À cet égard, le gouvernement a préparé une subvention qui sera accordée par le gouvernement central au gouvernement régional pour un total de 3,3 billion roupias pour 33 régions et villes. Sri Mulyani expliquait que la taxe sur les hôtels et les restaurants est une source de revenus locaux. Les subventions du gouvernement central garantissent que la région ne perd pas ses principaux revenus. Selon elle, tout le budget supplémentaire provenait de postes de réserve qui étaient destinés à financer quelque chose en prévu. Est-ce pour une catastrophe ou pour répondre à des conditions qui se produisent comme c'est le cas aujourd'hui? Série du Talk, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Ada sesuatu yang ingin aku katakan kepadamu, matahari jiwaku. Setelah sekian lama kita berdua memadu asmara, kini tiba waktunya ku mengutarakannya padamu. Oh, oh.
Chers amis, c'était la deuxième chanson de Sandy Sondoro et Monita Tahalia, intitulée « Sampai Usai Waktu ». En français, on peut dire « Jusqu'à la fin de temps ». Vous aimez la chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, la voix de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 et 4750 kHz. Et sur le site web www.fréquences.com. www.voinews.id. Chers auditeurs, c'est le temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel intitulé Gudeg de Yogyakarta. Bonne écoute.
Chers amis, nous continuons notre émission avec le magazine culturel. L'Indonésie a diverses tribus avec leurs cultures respectives. La culture prend la forme de coutumes, de vêtements, à la nourriture ou à la cuisine. L'un d'entre eux est javanais. Si vous visitez la ville de Yogyakarta, vous trouverez l'héritage culturel javanais sous la forme culinaire gudeg. Il existe deux types de gudeg à Jogja, à savoir le gudeg humide avec une sauce areh à base de lait de coco épais et gudeg sec. Le professeur Murdiati Garjito, chercheur au Centre d'études de l'alimentation traditionnelle du Centre d'études sur l'alimentation et la nutrition de l'Université Gadjah Mada Yogyakarta, a déclaré que l'origine du gudeg serait apparue depuis les années 1500 lorsque le royaume islamique de Mataram a été construit dans la forêt Mantauk, Kota Gede, Yogyakarta. À cette époque, les cuisiniers et les soldats faisaient des plats à base de jeûne jacquier et de lait de coco pour des centaines de personnes. Parce que la quantité de matière est assez grande, une grande poêle à frire est utilisée dans le processus. Le processus de fabrication de nourriture qui doit être remuée, comme l'aviron dans bateau, est appelé ngaudek en javanais. Enfin, le mot gudeg est apparu. Le processus de fabrication de gudeg, qui est à base de jeûne jacquier, communément appelé gori en javanais, commence par faire bouillir le jacquier pendant plusieurs heures avec du sucre, de coco et du lait de coco. Ensuite, ajoutez d'autres assaisonnements tels que le galanga, le noyer, l'oignon, l'ail et la coriandre, qui ont été écrasés, et d'autres assaisonnements. Mais le goût de gudeg est certainement sucré et savoureux, selon les goûts de la communauté javanaise en général. Pour sa présentation, le gudeg est généralement complété par du riz blanc, du poulet, des œufs durs, du tofu et du tempeh bacem et le sambal goreng krecek. Si vous allez à Yogyakarta, veuillez-vous visiter Vigilan, le célèbre centre de gudeg. Bien qu'il existe de nombreuses variantes de la chaleur qui existent aujourd'hui, comme un peu épicée à javaès, mais l'essence de la chaleur est le goût sucré et salé. Habituellement, gudeg est vendu en utilisant des paniers, des récipients en bambou, ou utiliser du kendil, en vase d'argile. Actuellement, la chaleur est non seulement trouvée et appréciée dans la région de Yogyakarta, mais elle s'est propagée dans des régions reculées du pays en Indonésie. Même aux Pays-Bas et aux États-Unis, il existe des restaurants indonésiens servant du plat gudeg dans leur menu. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci pour votre fidèle attention à la Voix de l'Indonésie. Au revoir.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Hanya engkau yang satu, hadirlah dalam mimpi-mimpiku. Biar seribu, biar ramai mengganggu, padaku engkaulah ratu. Sejak mula bertemu, kau buat siangku sedingin salju. Dan malam jadi hangat, sehangat cintamu. Kasihku Rosanna, kau gadis idamanku. Dua hati menjadi satu bila kita bertemu. Oh, Rosanna, gadis idamanku. Bila kan sampainya waktu kasih kita bertemu. Dalam cinta, Rosanna. Kau buat siangku sedingin salju. Dan malam jadi hangat, sehangat cintamu. Kasihku, oh Rosanna, kau gadis idamanku. Dua hati menjadi satu bila kita bertemu. Rosanna, kau gadis idamanku. Bila kan sampainya waktu kasih kita bertemu. Dalam cinta, Rosanna.
Chers auditeurs, c'était la chanson de Marcel, intitulée Rosanna. Vous êtes toujours avec nous, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur, intitulée « Le Musée international de l'histoire du prophète et de la civilisation islamique » sera construit à Ancol, Jakarta. Bonsoir, chers auditeurs, vous écoutez toujours The Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie. Ce soir avec moi Audrey et on se rencontre encore dans le programme L'Indonésie en couleur. Ce soir, vous allez écouter le Musée international de l'histoire du prophète et de la civilisation islamique sera construit à Ancol. Chers amis, le Musée international d'histoire du prophète et de la civilisation islamique sera construit à Taman Impian Jaya Ancol, Pademangan, au nord de Jakarta. La construction du musée a été lancée par le conseil de la mosquée indonésienne et serait la plus grande du monde. La construction du musée a débuté avec une première le mercredi 26 février. Le chef du comité de construction du Musée international d'histoire du prophète et de la civilisation islamique, Shafruddin, a déclaré que l'inauguration avait eu lieu après qu'un accord ait été conclu avec divers parties. Selon lui, ce musée deviendra une icône du monde et deviendra le plus grand du monde. Plus tard, ce musée sera rempli à partir de l'histoire complète et des centaines de hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à comment l'entrée de l'islam en Indonésie. Ce musée sera rendu aussi moderne que possible en utilisant la technologie tridimensionnelle, les hologrammes et la réalité augmentée. Plus tard, il y aura également une miniature de la grande mosquée et de la mosquée du prophète. Chers auditeurs, pendant ce temps, le président du conseil de la mosquée indonésienne, Yusuf Kala, a déclaré que le musée nécessite une superficie de 6 hectares. Le bâtiment lui-même fait environ 1,5 hectare, y compris la salle à manger du restaurant qui sera plus tard au menu mangé par le prophète. Le processus révolutionnaire a également réuni le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, Mohammed bin Abdul Karim Al-Issa, le ministre de la région Fahrul Razi, le ministre du BUMN Eric Thohir, le ministre des Affaires agraires et un certain nombre d'organisations islamiques en Indonésie. Chers auditeurs, c'était l'Indonésie en couleur sur le Musée international de l'histoire du prophète et de la civilisation islamique sera construit à Ancol. On se rencontrera demain avec le sujet différent. Merci beaucoup d'être fidèle avec nous et au revoir.
Sebut cinta, tak mungkin bisa melukai seperti yakinku juga begitu. Kau sebut cinta. Bisa saling menjaga, menjaga hati agar bahagia. Cinta takkan pernah sanggup untuk menyakiti.
Berjalanlah tentang Adam dan Hawa, tentang dua pecinta.
Chers amis, c'était la chanson de Tompi, intitulée Cerita Kita, notre histoire. Bon, chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Pour ce soir, nous vous présentons une chanson traditionnelle de Kalimantan Central, intitulée Turus Janji. Bonne écoute. Chers auditeurs, bonsoir. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie au monde, avec moi Audrey. Ce soir, dans la rubrique magazine musical, je vais vous présenter une chanson traditionnelle du Kalimantan Central intitulée Turus Janji. Les habitants du Kalimantan Central ont une tradition appelée Karungut qui se présente sous forme de littérature orale ou communément appelée Pantun, une grande littérature classique, une sorte de Pantun ou de Gurindam, très apprécié par la communauté Dayak. Les poèmes de Karungut contiennent les vertus et la sagesse des légendes de la vie. Contient également des conseils, des réprimandes et des avertissements dans la vie humaine quotidienne. Karungut peut également exprimer un sentiment de joie et de bonheur dans la communauté elle-même. Le karungut est traditionnellement accompagné d'instruments de musique chapi, gendang, gong et suling, mais de nos jours, il est souvent accompagné d'un groupe et d'un orgue. Chers auditeurs, voici la chanson intitulée Turus Janji, chantée par Ujai Mura et Yeti Miri. Bonne écoute. Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci beaucoup d'être toujours fidèles avec nous. N'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voines.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voiindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voi Indonesia. Et pour les informations plus détaillées, vous pouvez visiter notre site web www.voines.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.